un podcast France Culture. France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans ce qui n'est pas l'un des cercles de l'enfer, mais va s'en approcher à travers la figure de l'écrivain américain Stephen King. Voici plus de 50 ans qu'il règne en maître sur nos cauchemars et nos hantises. L'une de ses toutes premières héroïnes, Carrie, a fêté déjà ses 50 ans l'année dernière et Stephen King continue de s'imposer comme le roi incontesté de la littérature horrifique. Il est l'un des auteurs de fiction les plus adaptés au cinéma avec une cinquantaine de films tirés de ses livres et nombreux sont les écrivains qui le citent comme modèle. L'auteur des terrifiants Shining, Ça, Christine, Le Fléau, Cimetière et tant d'autres chefs-d'œuvre de l'angoisse a fait paraître près de 80 livres à ce jour et publie toujours régulièrement. Il a publié cette année Plus noir que noir, un recueil de nouvelles dont plusieurs sont inédites aux éditions Albin Michel. Mais quel est donc le secret de sa longévité? Pour explorer l'univers de Stephen King et disséquer le cœur très sanglant de son mythe, je suis en compagnie de Jennifer Kerner, thanato-archéologue et autrice, de l'écrivain Jean-Baptiste Delamo et de François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre. Jennifer Kerner, bonjour.
Bonjour.
Si l'on vous cherche, on vous trouvera peut-être en train d'ouvrir une sépulture quelque part dans le monde, puisque c'est votre spécialité. Vous êtes chercheuse en thanato-archéologie, une discipline qui a vocation à étudier les rites et les pratiques funéraires dont vous avez parlé dans votre ouvrage Le mari de nuit en 2021. Votre premier roman, Le tissu de crin, est sorti en 2023 au Mercure de France. C'est un roman gothique très noir et cette année, vous avez fait paraître la novella Je détruirai le monde dans la collection Vrille chez Zone Critique, un thriller ésotérique dans lequel satanisme et réseaux sociaux forment un cocktail pour le moins mortel. Bonjour Jean-Baptiste Delamo.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous avez publié votre premier roman « Une éducation libertine » en 2008. 5 autres ont suivi et vous êtes revenu cette année avec « La nuit ravagée », roman d'horreur à la sauce adolescente, mettant en scène une bande de lycéens dans les années 90 qui découvrent dans leur quartier une maison hantée dans laquelle ils vont s'introduire seuls ou en bande en ouvrant une porte vers un monde parallèle extrêmement inquiétant. Et la référence à Stephen King est évidente et assumée. François Angelier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maître français des littératures noires, producteur depuis bientôt 28 ans de l'émission Mauvais Genre, diffusée chaque samedi en direct et à 20h sur France Culture et qui s'intéresse à tout ce que les marges produisent de meilleur en littérature, en cinéma, bande dessinée, manga, érotisme, etc., etc. Vous êtes également critique littéraire au Monde des Livres et auteur de plusieurs biographies dont la toute dernière, Georges Bernanos, La Colère et la Grâce, a été couronnée du prix de la biographie de l'Académie française. Alors François Angelier, en presque 30 ans à arpenter les terres obscures et fertiles des mauvais genres, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Stephen King?
Alors rencontrer, c'est un grand mot, je l'ai vu, c'est déjà pas mal, parce que vu qu'il ne vient strictement jamais en France et en Europe, ça a été une chance. Je l'ai vu lors de sa visite au moment de la sortie de la suite de Shining, là, il y avait une sorte de grande réunion au club presse américain, ou club de la presse américaine, je sais pas, dans le 8e arrondissement. Et donc, je l'ai vu à ce moment-là avec une centaine de collègues, dont certains venaient avec leur caméra sur l'épaule de Finlande, de Bavière, d'Italie, d'Espagne. Toute l'Europe des amateurs de Stephen King était là. Il a été donc filmé, il a posé des questions. Moi, j'étais tellement terrorisé que j'avais tellement bien lu ses livres que j'ai pas posé de questions, mais c'est le moment où je l'ai vu, oui, effectivement. Mais j'ai jamais eu la chance de l'interviewer. Ça, l'entretien avec Stephen King, mais ça reste qu'une sorte d'horizon, comme ça.
Oui, il paraît que c'est très difficile de le rencontrer. Vous me racontiez juste avant l'émission que c'est une phobie qu'il a développée après avoir trouvé un journaliste sauvage qui s'était introduit chez lui.
Oui, c'est une anecdote qui court, comme quoi il aurait un jour trouvé chez lui un fan venu lui poser quelques quelques questions et que depuis, il en a conçu une terreur et surtout une défiance terrible à l'égard des intervieweurs et surtout des visiteurs d'un jour. Quoi.
On reparlera de la façon aussi dont la presse a pu et la critique a pu
mais il rencontre quand même ses traducteurs. C'est pas un homme coupé du monde du tout.
Et il rencontre aussi ses fans, je crois
qu'il a... absolument. Bah, il l'a fait quand il est venu en France.
Alors Stephen King, on tombe dans la marmite comme Obélix, souvent quand on est petit ou à l'adolescence. En tout cas, c'est comme ça qu'on attrape parfois d'ailleurs le goût d'une certaine littérature. Jean-Baptiste Delamo, dans la postface de La nuit ravagée, vous écrivez que votre livre est un hommage à Stephen King et ça vient confirmer ce qu'on avait bien senti à la lecture. Comment est-ce qu'il a bouleversé, transformé votre adolescence, Jean-Baptiste Delamo ?
Je crois que la découverte des livres de Stephen King, pour moi, ça a été d'abord la découverte de ce que peut l'imaginaire et de ce que peut le fantastique aussi. Ça m'a permis de comprendre que tout était possible dans les livres, finalement. Et puis King, si ce n'est pas vraiment un grand styliste, c'est en revanche un très grand conteur. Et je pense qu'avec lui, en le lisant, j'ai acquis ce goût de raconter des histoires, d'essayer de mettre en place des univers.
Et La nuit ravagée, c'est un hommage à La nuit déchirée, son film 1992.
Alors non, mais effectivement, ça pourrait. Ça n'est pas un hommage direct à ce film-là, qui je crois a été adapté d'une nouvelle. Mais je crois que la première finalement figure tutélaire de La nuit ravagée, c'est plutôt ça qui a été une lecture très importante pour moi quand j'étais ado.
Jennifer Kerner, vous qui plongez littéralement dans la fiction comme dans le réel, dans la mort, est-ce que pour vous Stephen King, dit-on quand on est un peu plus anglophone que moi, a été un grand frisson d'adolescence ?
Moi, le tout premier livre de Stephen que j'ai lu, c'était Misery. J'avais 17 ans et je me souviens, c'est une déflagration pour moi parce que pour la toute première fois dans ma vie de lectrice, je trouve quelque chose que je n'avais jamais trouvé avant, à savoir un personnage principal féminin monstrueux. Et ça fait du bien. Et je sais que maintenant, toutes mes propres héroïnes de fiction ne sont que les héritières de ce personnage Dany dans Misery. Parce que, en fait, plus j'écris, plus on me dit « Oh, t'as quand même une écriture très très kingienne ». Alors évidemment, ça fait plaisir, mais ça fait quand même un petit peu peur aussi, parce que chez moi, c'est très inconscient. Je ne sais pas si c'est pareil, je pense que c'est plus mesuré chez Jean-Baptiste Delamo, mais chez moi, ça m'échappe. Et je crois que c'est une espèce de magie qu'ont des auteurs comme Stephen King, c'est qu'ils sont tellement incontournables dans nos vies de lecteurs que après, si par la suite on devient soi-même romancier, ils colonisent complètement nos fictions, quoi.
Et il a libéré chez vous un sentiment d'autorisation à faire passer la monstruosité dans le camp féminin, ce qui est effectivement quelque chose d'assez rare et que vous pratiquez beaucoup dans Le tissu de crin où votre héroïne est assez monstrueuse.
Exactement, c'est lui qui m'a donné le feu vert. Je me suis sentie autorisée à faire à mes personnages féminins des trucs abominables.
François Angelier, premier souvenir de lecture de Stephen King.
Bon, ça devait être Salem Slot. Salem, c'est-à-dire quoi, j'ai une initiation à la littérature horrifique et fantastique qui est liée à ma génération. Le premier, à part évidemment Edgar Poe, ça a été d'abord Jean Rey dans les vieux marabouts fantastiques. Ça a été Lovecraft dans les J'ai lu. Et King est arrivé évidemment bien après, et ça a été donc par Salem qui est un roman vampirique et draculéen, ce qui est à dire absolument pas un roman kingien, puisque si King a apporté quelque chose à la littérature horrifique mondiale, c'est de la dégothiciser, je ne sais pas si le mot vous tient le coup, mais c'est à dire de lui faire rompre avec ses sources les plus ostensiblement gothiques romantiques. J'ai trouvé ça effectivement très étonnant, puisque on est dans un patelin américain et que là il arrive à instaurer de la terreur gothique. Donc j'ai commencé à lire et j'ai à peu près lu tout ce qui est paru par la suite. J'ai pas lu tout King, mais j'ai lu évidemment le Fléau il y en a qui m'avait beaucoup marqué, c'est Sagdos, avec un récit, avec un personnage de pépère pervers parfaitement insupportable. Et donc, et puis évidemment ça, le Dôme, toutes les... Bon. Mais le début, ça a été par ce roman qui n'est pas typiquement kingien, qui est Salem.
On va écouter Stephen King répondre à une question qui me paraît fondamentale. Pour aborder son œuvre, c'était sur France Inter en 2013.
Est-ce que vous croyez au diable, Stephen King ? Oui, je crois au diable, je crois qu'il est en nous. Et que Dieu aussi est en nous. Mais je crois que le diable est très présent chez nous. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce monde. J'ai jamais rien écrit au sujet du diable en tant que tel. Je suis certain qu'il y a quelque chose dans nos âmes, à nous, qui aime la violence, la terreur. Le mal. Et chacun d'entre nous a fait un moment ou un autre quelque chose de très méchant. Et c'est ça le diable en nous. Mais un vrai diable avec des petites cornes, une petite queue, non, je pense pas là, non.
François Angelier, Stephen King ne croit pas à un vrai diable avec une petite queue et des petites cornes. Est-ce que c'est cette faculté à débusquer le mal à l'intérieur de l'âme humaine sans aller chercher des forces extérieures qui peut expliquer le succès monumental de Stephen King depuis plus de 50 ans? Parce que le mal se démode pas, parce que à l'intérieur de nous, c'est sans fin.
Ça rejoint ce que je disais. Je suis content d'être confirmé par le maître lui-même. C'est-à-dire que, effectivement, chez King, le diable n'a pas une petite queue pointue, des cornes, il est pas velu. Soit c'est un vieillard en retraite qui descend de son de sa caravane, soit c'est un commerçant, soit c'est un personnage anodin. C'est pour ça c'est le grand apport de King. C'est qu'en définitive, il a totalement démythifié, déromantisé, dégoticisé le diable, quoi. Il croit au diable, mais il y croit d'autant plus que le diable peut prendre toutes les formes, même les plus quotidiennes.
Jean-Baptiste Delamo, dans La Nuit ravagée, il y a une maison hantée, comme je le disais, dans laquelle des adolescents pénètrent. Ils ouvrent la porte à des démons qui incarnent soit leurs plus grands désirs, soit leurs pires cauchemars. Et est-ce que c'était une façon de prolonger cette idée selon laquelle le mal est en nous et que ce sont nos désirs, nos pulsions, nos catastrophes et nos chaos qui lui donnent sa forme ?
Je crois que ça a souvent été un moteur de la littérature horrifique et fantastique de manière générale, mais c'est vrai que King s'est vraiment plu à chercher à le dépeindre sous des atours et des apparences ordinaires, et il a souvent cherché aussi à donner forme à des peurs qui sont très contemporaines. Et au fur et à mesure que son œuvre avance, on voit comment il cherche à s'emparer de thématiques même très très contemporaines. Je pense par exemple à Cellulaire, où il avait étudié l'emprise des téléphones portables. La façon dont il représente aujourd'hui les épidémies mondiales et le Covid en particulier. Donc il est toujours à la recherche comme ça de tout ce qui peut à la fois constituer notre normalité, notre new normal, et puis à essayer de lui donner des atours effroyables.
Mais c'est un grand inquiet, en fait, Stephen King, un grand angoissé aussi, qui voit à chaque fois apparaître un nouveau danger. Il a parlé des voitures, il a parlé de la vitesse, enfin, il conjure aussi ça.
Je crois que c'est déjà un très grand observateur de notre humanité, de nos sociétés. Et puis c'est quelqu'un qui a aussi eu une vie quand même assez cabossée, qui a eu un rapport très addictif aux drogues et à l'alcool, qui a survécu à un grave accident de voiture, qui a été atteint physiquement. Et je pense que toutes ces dimensions-là qui ont composé aussi sa vie intime, il a cherché à les illustrer en fiction, soit à utiliser la fiction pour canaliser justement sa part de souffrance et sa part de démon aussi.
Jennifer Kerner, vous aussi, vous pensez qu'on trouve les démons comme Stephen King à l'intérieur de l'âme humaine dans Je punirai le monde. Belzébuth, Lucifer s'invite dans l'histoire par la manipulation d'un gourou qui sévit sur les réseaux sociaux. Une jeune femme qui se dit je vais devenir sorcière parce que c'est à la mode et que ça lui donne une petite colonne vertébrale dans une vie un peu en déliquescence. Et puis qui se retrouve influencée au sens moderne du terme, puis carrément manipulée. Et les pouvoirs maléfiques qui arrivent sur sa vie sont les pouvoirs finalement de la manipulation mentale de ces gens qui utilisent des forces occultes pour servir leurs propres intérêts.
Oui, tout à fait. Chez Stephen King, le mal, il est à l'intérieur de nous. Ceci dit, je suis un petit peu surprise quand même qu'il affirme de ne jamais, jamais avoir écrit sur le diable. Parce que dans Bazar, qui est ce commerçant quand même, hein, qui offre comme ça aux gens justement leurs désirs les plus secrets contre un pacte où ils vont devoir ensuite faire des atrocités qui ont l'air toutes petites et qui finalement prennent des proportions immenses et vont jusqu'à tuer leurs concitoyens. Je crois que dans cette façon de voir les choses, quand même, King, il revient à son éducation protestante où le diable s'insère dans les mauvais sentiments des autres et où ce qu'il faut combattre, justement, c'est notre tendance au péché. Hein, il a beau s'éloigner de la religion, King, il a quand même bien baigné dedans et on le sent avec beaucoup de références bibliques.
Stephen King s'est intéressé, on le disait à l'instant avec Jean-Baptiste Delamo, à une grande variété de sujets de société hein, et de sujets d'actualité. C'est-à-dire qu'il regarde autour de lui, il voit ce qui se passe, il ressent une inquiétude, il capte quelque chose et puis il le traduit en littérature à un rythme d'ailleurs un peu fou. Mais en même temps, il développe ces thématiques intemporelles dont on a parlé, hein, c'est-à-dire la peur de la mort, la question de l'au-delà, la question de la violence, les perversions sexuelles. On croise dans ses romans, je me souviendrai toujours du sandwich à la langue du nécrophile dans Jesse, à la fin du roman. Est-ce que c'est ce mélange d'un regard à la fois incisif, très immédiat sur le monde contemporain et de nos peurs les plus archaïques et les plus ancestrales qui fait la recette de son succès et de sa pérennité peut-être, ou sa méthode, François Angelier?
Oui, c'est de toute façon, c'est le, comment dirais-je, c'est ce à quoi doivent parvenir tous les écrivains depuis les origines qui travaillent sur le fantastique et l'horrifique, c'est-à-dire de partir d'un monde qui est le monde contemporain, qui est, bon, ça peut être un monde mythique désincarné, mais de partir du contemporain, ça a été le cas pour les romantiques, le roman noir anglais, ça a été le cas pour les romantiques français et espagnols ou italiens, et puis c'est le cas pour King, c'est-à-dire d'arriver à une véritable déclinaison du mal selon les codes et les critères de la réalité la plus prosaïque et la plus banale. Moi, c'est ce qui me fascine chez King, c'est ça, c'est vraiment ce dont on parlait. C'est un commerçant, un retraité, les gens d'un couple d'universitaires tout à fait lambda, et puis brusquement, quelque chose commence à... Vous savez, c'est ça, c'est très Kingien, ça. Quelque chose commence à gigoter, à bourgeonner, à se fissurer, et on a le sentiment que ce qui était totalement, mais pourquoi il nous parle de tout ça, que tout ce dont il nous parle, était en définitive, dès le départ, totalement hanté, miné, ça, dans les profondeurs. Et là, il est incomparable. C'est cette capacité qu'il a de brusquement donner au lecteur le sentiment que « Ah mais non, mais en définitive, je me suis fait complètement piéger. » Mais un piège lancinant, comme ça, très terrible. Alors ça, c'est de la perversité littéraire de haut de gamme.
Et c'est ça dont on ne se lasse pas et qui fait qu'on retourne à Stephen King.
Ah bah oui,
depuis 50 ans. Alors, il y a le mal banal, et puis il y a parfois des enfants et des clowns, on en a parlé, Jean-Baptiste Delamo. L'enfance est très importante dans les romans de Stephen King. Je propose que nous écoutions la lecture d'un extrait de Ça, par Margot Page.
George se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son bon genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux en s'enfonçant dans les ténèbres. Un bruit de maison hantée qui lui rappelait. Un cri étranglé sortit de sa gorge et il sursauta. Deux yeux jaunes le regardaient de là-dedans. Des yeux comme ceux qu'il avait imaginés le guettant dans la cave, sans jamais les voir. « C'est un animal », pensa-t-il de manière incohérente. « C'est tout ce que c'est. Un animal, tout bêtement, un chat qui a été emporté là-dedans. » Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans 2 secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit par ses 2 yeux jaunes et luisants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts, ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite. Et c'est à cet instant qu'une voix, agréable, au ton raisonnable, lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, Georgie ?» fit-elle. George se pencha et regarda de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme dans un conte de fées, ou comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus, il serait resté incrédule. Mais il avait 6 ans, et non 16. Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George Denbrough n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Clarabelle, celui ou celle, George n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait 2 touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche.
«
Un énorme sourire clownesque, c'est d'une cruauté sans nom ce petit garçon qui veut un ballon et qui va se faire attraper par un clown maléfique. Ce qui est intéressant chez Stephen King, et il l'a d'ailleurs revendiqué lui-même des dizaines de fois, c'est qu'il est resté connecté à ses émotions d'enfant et qu'elles lui permettent d'avoir une grille de lecture du monde et de nos peurs les plus profondes. Est-ce que c'est ça aussi qui vous touche chez lui, Jean-Baptiste Delamo? Est-ce que vous redevenez le petit garçon apeuré quand vous lisez Stephen King?
Ah oui, complètement. Il a une capacité à restituer les sensations et les émotions de l'enfance qui est assez stupéfiante, je trouve. Il a réussi à faire revivre ses années 50, qui ont été les années de sa jeunesse, et à recréer toute une bande de copains, une bande d'enfants, de manière extrêmement réaliste, malgré l'aspect fantasmagorique du texte. Et à incarner nos peurs les plus intimes à travers ce personnage de Pennywise. Et c'est un texte admirable. En tout point, ouais.
Et c'est intéressant parce que dans ces livres, il y a aussi un sentiment de l'enfance un peu intacte encore, un peu...
Oui, ça parle de ce moment de bascule là aussi où ces gamins vont se confronter à l'horreur et vont devoir malgré eux devenir des adultes. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi un récit d'apprentissage, ça. Et je crois qu'on a tous été touchés par ce texte, lecteur de Stephen King, parce qu'il y a un facteur extrêmement universel en fait dans ce rapport à l'enfance et à l'émerveillement de l'enfance et à la bascule finalement dans la réalité de l'âge adulte.
Oui, vous avez rattrapé ça pour le mettre dans cette ambiance pavillonnaire des années 90 en France, avec tous les tourments que vit cette jeunesse dont vous nous racontez l'histoire horrifique. François Angelier, l'enfance, c'est aussi ce qui permet d'augmenter le pouvoir de la violence chez Stephen King, aussi le sentiment de transgression avec des victimes innocentes, les enfants dans ça, Danny dans Shining avec son petit tricycle, Gage, le petit garçon de cimetière qui se fait écraser par un camion puis qui revient après avoir été enterré dans le cimetière sous forme très inquiétante. Est-ce qu'on peut considérer que les dangers qui planent sur les enfants sont un peu une métaphore pour Stephen King de l'extinction de leur imaginaire, comme si le vrai drame et la vraie violence de ces textes, c'était cette enfance qui disparaît aussi de manière symbolique? Il n'y a pas pire finalement que cette contamination par le monde des adultes, François Angelier.
Oui, c'est la dimension initiatique noire de King, c'est-à-dire qu'il n'écrit que des romans de passage. On ne sera évidemment plus du tout le même après et avant avoir croisé la figure du mal, du malin, du diable, ou quelque forme qu'elle adopte. Mais je voudrais revenir sur le clown. Là, c'est vrai que cette idée d'un clown noir, d'un clown fétide et pervers, c'était déjà là dans le symbolisme français avec des pierrots un peu angoissants. Et puis, dans le film de Jacques Tourneur, Rendez-vous avec la peur, où il y a une scène totalement kingienne, mais qui anticipe de 20 ans les romans de King, où on se rend dans une sorte de goûter d'anniversaire pour enfants, où il y a le personnage central qui incarne le mal, qui est habillé en clown et qui fait le malin au milieu des enfants. Je veux dire, c'est vrai que cette espèce de conjonction entre ce qui doit être le plus rassurant, le plus maternant et le plus innocent, la figure du clown, quoi, en plus une figure toujours un peu victimaire quand même, et puis le diable, ça c'est une idée qui est tout à fait géniale. Et alors, par ailleurs, les enfants kingiens, ils ont les deux. Ils sont un peu...
Il y en a qui sont maléfiques.
Ils sont un peu bernanosiens. Je veux dire par là qu'ils ont à la fois des qualités d'héroïsme, de courage et d'initiative qui sont tout à fait étonnantes. Je veux dire, c'est le gamin américain. Je veux dire, on est là... King est aujourd'hui devenu un peu le Mark Twain du 20e et du 21e siècle. C'est-à-dire le conteur officiel. Bon, même si Mark Twain est mal vu aujourd'hui des mouvements woke, enfin bon, King est un peu le Mark Twain d'aujourd'hui, et Mark Twain a promu justement cette figure héroïque du gamin avec Huckleberry Finn, son copain et tout ça, et ben King a retrouvé ça en le déplaçant vers l'horrifique et en créant véritablement une sorte de littérature pas pour enfants, mais pour enfants menacés, quoi, c'est-à-dire menacés par l'âge adulte et menacés par le réel, quoi. C'est vrai que sur ce plan-là, et en plus en y ayant recours systématiquement, quoi. Je veux dire, il y a véritablement chez lui cette idée que c'est l'enfant et les groupes d'enfants qui permettent toutes les audaces, tous les courages et toutes les découvertes. Parce que l'adulte, lui, il est fini, il est mort, il est bon. Mais l'enfant, lui, tout est à faire. Et lui, il est capable de tout.
Jennifer Kerner, est-ce que Stephen King, François Angelet disait à l'instant que le clown incarne le mal, est-ce que Stephen King est arrivé à développer une sorte de discours sur le bien et le mal, ou de boussole de bien et du mal? Quel est son rapport, d'après vous,
à ces questions? J'ai pas lu dans ses nombreux écrits théoriques où il dissèque un petit peu sa manière d'écrire, de position très très franche. Et j'ai entendu une interview de lui face à l'évêque de Canterbury, puisque vous voyez, sa fille est pasteur, donc il a quand même un rapport à la théologie qui a l'air très intime, mais il s'exprime très peu finalement dessus, à moins que j'ai raté quelque chose. Mais je ne crois pas qu'il ait pris de position ferme sur cette question. À part évidemment dans une discussion avec Kubrick un petit peu énervé, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Il croit en l'enfer, c'est sûr, mais qu'est-ce qui nous y mène? Et surtout, est-ce que l'enfer n'est pas finalement ici? J'ai l'impression que quand on lit ses nouveaux écrits, King a de plus en plus ce sentiment que peut-être une part d'enfer se situe justement dans l'innocence brisée des guerres actuelles, du Covid, de la montée du fascisme en Amérique. Enfin voilà, c'est quelque chose de très complexe.
On va parler justement de cette évolution et puis de ce qui produit maintenant Stephen King. On a tous en tête depuis son premier grand succès, c'est Carrie en 1974, je le disais, elle est maintenant quinquagénaire. Carrie, des best-sellers de Stephen King, on en a cité un grand nombre. J'espère que les auditeurs et auditrices ont pris des notes pour lire cet été et rattraper leur Stephen King. Parmi eux, on a cité quand même moins de romans récents de Stephen King. Est-ce que la qualité de ses écrits baisse en évoluant, d'après vous, ou est-ce que on reste quand même sur une ligne Stephen King solide, Jean-Baptiste Delamo?
Alors, je dois avouer que je le lis plus vraiment depuis de nombreuses années, mais en préparant l'émission, j'ai lu donc son nouveau recueil, Plus noir que noir. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point ces thèmes semblent en partie avoir évolué. Ils représentent de plus en plus le grand âge et la fin de vie, le corps vieillissant. Et j'en avais touché un mot un peu plus tôt, mais c'est particulièrement vrai dans Plus noir que noir. Je pense que le Covid est cité dans à peu près toutes les nouvelles, parfois comme une simple référence, mais on sent vraiment ce besoin d'ancrer ces fictions dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc je vois aussi rétrospectivement comment ces centres d'intérêt et ces obsessions ont sans doute évolué avec le temps.
François Angelier, Plus noir que noir, vous l'avez lu.
C'est un titre de chanson de Leonard Cohen qu'il a tordu. Alors un recueil de nouvelles, ça va de 2 pages à 250 pages. Donc déjà, ça montre que King est totalement libre vis-à-vis des genres littéraires et des formes littéraires dans lesquelles il est amené à fonctionner. Moi, je suis assez d'accord, effectivement, il y a de plus en plus, il y a notamment, je crois, des premières nouvelles, c'est une femme qui est abusée par un élève, je crois, il y a aussi c'est vrai qu'il y a cette idée que la vieillesse qui était chez lui quelque chose de menaçant devient quelque chose de touchant. Mmh. Et ça, c'est dû évidemment à son expérience, sa vie personnelle. Je trouve que le dernier recueil est quand même assez divers et assez varié.
Mais ça fonctionne.
Ça fonctionne toujours. C'est quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est comme tous ces vieux, comme en France, des gens comme Serge Brusselot ou Pierre Pelot, qui ont 200, 250 titres. Écrire leur est devenu une espèce de fonctionnement, de respiration naturelle. Ils font même des romans sans s'en rendre compte. Enfin, je veux dire, il y a une capacité d'évidence narrative qui fait que Stephen King continue de voilà.
Jennifer Kerner, vous restez fidèle?
Moi, je reste une grande fidèle, même si c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup évoluer, mais son évolution, moi, je trouve qu'il l'a quand même enclenchée dès 2014 avec Mr. Mercedes, où il va plus vers du polar, et de plus en plus, il s'éloigne du fantastique un peu trash, un peu gore, qui a fait ses plus beaux succès dans les premières décennies. Et c'est vrai que peut-être que les fans de la première heure peuvent être un petit peu déçus, mais il faut qu'on l'accompagne dans cette espèce de mélancolie tranquille où il nous montre aussi de très nouveaux jolis paysages de la peur.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi pour cette première partie d'émission. On se retrouve dans la deuxième partie des midis après le journal pour évoquer ensemble les adaptations cinématographiques de l'œuvre de Stephen King.
France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bienvenue dans la deuxième partie des Midis de Culture et je suis toujours en compagnie de Jennifer Kerner, Jean-Baptiste Delamo et François Angelier pour évoquer le grand Stephen King. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais que nous écoutions un montage d'extraits de différents films.
Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison.
Nom de Dieu du frêne, tu me fous en retard. J'ai un horaire à respecter. Je te préviens que t'as intérêt à être malade ou mort. Tu m'entends? Oh putain de merde.
Bonjour Danny. Viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous, Danny.
Vas-y, vas-y, Christine. Je t'en prie, bébé, démarre. Rien n'est changé. Tout est comme avant.
C'est toi, Cunningham? Tu vas pas faire le con?
Carrie, faut pas m'en vouloir, je suis désolée, je ne savais pas. Ta maman t'a pas mise au courant? Je vais tout t'expliquer quand tu seras calmée. T'as plus rien à craindre. Regarde, elles sont sorties. Nous allons parler toutes les deux, d'accord?
Et vous avez reconnu Shining, Les Évadés, Christine et Carrie. Stephen King est l'un des auteurs contemporains les plus adaptés au cinéma. J'aimerais qu'on parle un peu plus de Carrie. Donc c'est le premier roman qui a vraiment fait son succès, 1973, et puis ce film Carrie au bal du diable, Brian De Palma, 1976. Et c'est la combinaison de ces deux œuvres, l'une littéraire, l'autre cinématographique, qui vont vraiment faire exploser Stephen King. Qu'est-ce qu'ils nous disent de l'histoire de Stephen King et de l'histoire de son succès et de sa perception aussi par ses contemporains, François Angelier?
Carrie, c'est le premier coup d'éclat littéraire et cinématographique. Si mes souvenirs sont bons, c'est un manuscrit qui a été retiré de la poubelle par son épouse, puisqu'il considérait que, ma foi, il n'avait pas capacité à traiter un sujet. Enfin, il avait eu le sujet, il avait reçu le sujet, mais le traiter lui semblait au-delà de ses capacités, n'est-ce pas? Et donc, merci Madame King. Et donc, effectivement, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Carrie, alors, l'édition originale française de Carrie, tout le monde connaît la version poche en j'ai lu, c'est paru chez Gallimard, dans la collection du monde entier, là, avec Thomas Mann, Faulkner, Mishima, Italo Calvino, enfin bon, avec une couverture, une jaquette orange, et une traduction d'Henri Robillot, qui est le traducteur d'Henri Miller. Donc le démarrage éditorial de King en France s'est fait sous les auspices les plus, je dirais, officiels et glorieux. Après, les choses ont varié, mais c'est quand même intéressant de le savoir.
C'est intéressant parce que ça dit quelque chose de la relation d'amour-haine que les lecteurs et les critiques entretiennent depuis 50 ans avec Stephen King, Jennifer Kerner, et le genre en général.
Surtout les critiques en fait, hein, parce que c'est vrai que même en Amérique, King met du temps à être apprécié à sa juste valeur littéraire. C'est dans les années 90 à peu près qu'on voit émerger des théories sur lui, le reconnaissant comme un auteur de valeur. Puis dans les années 2000, où on le qualifie carrément de post-moderne, où on gratifie ses œuvres comme étant des métafictions, donc avec une forme audacieuse, avec des procédés d'écriture qui sont pas avant-gardistes, mais tout de même peu conventionnels. Donc King, c'est parfois des livres faciles à lire, mais c'est très souvent un patchwork de techniques narratives qui sont tout simplement virtuoses.
Jean-Baptiste Delamo, ce qui est intéressant aussi, c'est justement que Stephen King est acclamé par des auteurs aujourd'hui de littérature en France. On a Marie Dariussecq qui parle beaucoup de Stephen King, Cécile Coulon, Delphine de Vigan. Vous avez publié aussi chez Gallimard dans La Blanche, donc comme Stephen King dans la collection du monde entier il y a toutes ces années. Est-ce que vous avez l'impression, en pouvant publier un roman dit de genre dans la collection Blanche de Gallimard, que Stephen King a à coups de films et d'œuvres littéraires, finalement fait voler en éclats certaines cases.
Oui, il y a certainement participé. Je fais partie d'une génération d'auteurs qui a grandi en lisant Stephen King, qui a vu ses adaptations au cinéma, à la télévision, et qui s'est façonné aussi avec cet imaginaire-là, cette façon de raconter des histoires. Et finalement, c'est pas étonnant de voir aujourd'hui des auteurs qui rendent aussi soit hommage à Stephen King, soit qui ont à leur tour envie de s'aventurer dans des espaces imaginaires et fantastiques. Et bien évidemment, King est celui qui a contribué en premier lieu. Ouais.
Alors, parmi la multitude de films, je reviens au cinéma, adaptés des romans de Stephen King, certains sont iconiques. On parlait de Carrie, de Brian De Palma, il y a Shining de Kubrick, bien sûr, en 1980, Dead Zone de Cronenberg en 83, Christine de John Carpenter en 86, Stand By Me de Rob Reiner en 86 aussi, Misery en 1990, toujours du même réalisateur, et puis plus contemporain, ça d'André Muschietti en 2017, et puis cette année Life of Chuck de Mike Flanagan, qui avait adapté Doctor Sleep en 2019 et Jesse en 2017. Stephen King adore quand les adaptations sont fidèles à ses livres. Il le dit tout le temps, il dit de Stand By Me de Rob Reiner, il l'a déclaré à Rolling Stone, c'était tellement fidèle au livre, le film a le même potentiel émotionnel et c'est bouleversant, j'en ai pleuré. En revanche, il a dit de Shining que c'était exaspérant, pervers et décevant. Quel rapport a eu Stephen King avec ses différentes adaptations cinématographiques de son œuvre au fil comme ça des années et des blockbusters ou des flops d'ailleurs cinématographiques. François Angelier.
Il a commencé au maximum. Je veux dire, quand on commence avec Kubrick, Carpenter, Cronenberg, il est difficile. Ah, voilà. Il a eu, je dirais, la chance et la malchance d'être tout de suite. Je veux dire, c'est un peu comme Patricia Highsmith avec Hitchcock, ou je veux dire, bon. Mais c'est l'envers du décor. C'est à double tranchant, c'est qu'on peut pas demander à des personnalités pareilles de laisser leur génie à la porte et de devenir, je dirais, des adaptateurs fidèles, c'est-à-dire des gens qui se moulent autour d'un récit avec une écriture cinématographique qui est au contraire soumise aux propos littéraires. Et toi, je veux dire, l'intérêt, c'est de voir comment Stephen King est d'une certaine façon réinitialisé et retraduit par ces gens-là. Alors effectivement, lui, il y a une sorte d'orgueil parce qu'il a le sentiment d'être un peu un prétexte. On se dit, ah bah oui, effectivement, là, il y a une bonne histoire et à partir d'une bonne histoire, moi, je vais faire un grand film. Alors lui, il s'est dit, moi, j'ai fait un grand livre et vous allez en faire un grand film. Donc effectivement, mais ça, c'est un débat éternel, je veux dire. Et bon, d'un autre côté, il n'a pas, à mon avis, à trop se plaindre de ce qui lui est arrivé avec le cinéma. Parce qu'il a joué sur à peu près tout, depuis le film le film d'exploitation, tout ce qu'il y a de médiocre, jusqu'à des véritables chefs-d'œuvre. Donc King traduit bien, si on prend la totalité, je crois il y a 80 films à peu près, réalisés à partir de Stephen King, il a connu à peu près tous les traitements possibles avec le cinéma. C'est une bonne... un bon sujet pour savoir ce que c'est que la question du passage du texte à l'écran. Quoi.
Ça va vraiment du navet au chef-d'œuvre pour ce qui concerne les adaptations de Stephen King. Jennifer Kerner, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait de prendre ses libertés ou rester fidèle au texte de Stephen King change la qualité des films, joue sur la qualité des films? Est-ce que vous êtes d'accord avec maître?
Non, mais ça dépend King. Vraiment du cinéaste en réalité. Parce que par exemple, Bob Reiner dans Misery change profondément la personnalité même d'Annie. Dans le livre, c'est un monstre dès le début. Elle est folle et elle est cruelle. Alors que dans l'adaptation, elle est plutôt doucereuse au début et puis elle a des pics de colère, mais on sent que c'est quelqu'un qu'on pourrait presque soigner et rattraper. Et King est très content de cette adaptation, alors qu'elle est très peu fidèle en réalité à l'œuvre originale. Alors que, évidemment, si on prend son œuvre avec un propos humaniste, chaleureux, comme c'était le cas de The Shining, et qu'on en fait une œuvre horriblement fade et misogyne, comme ce qu'a fait Kubrick, pardon, je pense qu'on va peut-être pas être d'accord là, alors là, oui, là, il se fâche. Parce que ce qui a été fait du personnage de Wendy dans l'adaptation de Kubrick, c'est pas entendable pour le féministe qu'est Stephen King.
Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste Delamo?
Alors malheureusement pas sur l'appréciation de Shining, qui est un film que j'adore, mais et je crois d'ailleurs que Stephen King, le temps passant, a finalement reconnu que Shining était quand même un grand film de cinéma. C'est vrai qu'on trouve absolument tout dans ses adaptations, du grand film au nanar qui passe tard le soir à la télé, mais c'est aussi ce qui montre à quel point cette œuvre est généreuse, combien elle permet de lectures diverses, et c'est quand même extraordinaire de voir autant de réalisateurs qui ont eu envie de s'emparer de cette matière littéraire pour en tirer des histoires à transposer au cinéma.
Il permet même, Stephen King, à de jeunes cinéastes en formation, pour la somme d'un euro symbolique, d'adapter la nouvelle ou le livre de leur choix pour en film. Quelle est, pour terminer cette émission, votre recommandation du Stephen King qu'on va poser dans nos valises ou sur notre table de chevet? François Angelier, le Stephen King de votre vie.
Moi, je vais être d'une platitude et d'une banalité totale. Moi, je donnerai deux choses. Parce que ça reste quand même comme le grand moment de réjouissance horrifique et absolument extraordinaire. Et puis lire Anatomie de l'horreur, où il explique un petit peu sa vision de l'histoire de la littérature fantastique, horrifique, du cinéma, et puis un peu la manière dont il cuisine et mitonne toutes ces histoires depuis toutes ces décennies. Et il est aussi intéressant, je dirais, c'est presque aussi effrayant de le voir parler de son atelier d'auteur que de le voir, que de lire ses fictions.
En un mot, un titre, Jean-Baptiste Delamo?
Ce serait Un portrait de femme, et pour le coup, qui ne fait pas partie de ces titres fantastiques, c'est Dolores Claiborne.
Très bon choix, Jennifer Kerner.
Oui, et j'aurais dit Dolores Claiborne aussi, alors du coup, je vais revenir sur Misery, qui est d'ailleurs un de ses livres préférés, avec Cujo, ce qui est amusant, puisque ce sont deux titres, finalement, qui ne sont pas fantastiques. Donc...
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ces midis de culture consacrés à Stephen King. Je rappelle, Jean-Baptiste Delamo, que vous avez fait paraître La Nuit Ravagée chez Gallimard au printemps, et vous, Jennifer Kerner, Je détruirai le monde dans la collection Vrille de Sens Critique tout récemment. François Angelier, on vous retrouve en septembre pour la 30 août pour la 28e saison de Mauvais Genre. Et en attendant, on peut lire Plus noir que noir de Stephen King, traduit par Jean Hesch chez Albin Michel. Merci beaucoup à tous les trois. Et on se quitte avec le morceau You Want It Darker de Leonard Cohen, qu'a cité François Angelier tout à l'heure, évidemment, et qui est le titre en VO du dernier recueil de Stephen King.
There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame.
Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode et Nina Gandara. À la réalisation aujourd'hui, Margot Page et Alban Pelletier. Et à la technique, Ludovic Auger.